nous pour ce nouveau magazine de la moto le dimanche de 11h à midi sur Radio Campus Lille. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur la carrière de deux pilotes des années 1970, Peter Williams et Dave Crawford, invités par les amis de la moto le week-end dernier au salon Moto Légende à Vincennes. Bruno Perlinski, qui est le président des amis de la moto et aussi l'instigateur de cette rencontre, ainsi que Patrick Cassuto, sont avec nous dans les studios pour nous raconter la fabuleuse histoire de deux pilotes moto dont la carrière a été intimement liée à cette marque emblématique qu'est Norton. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Patrick, bonjour. On fait un petit réglage.
Bonjour.
Il y avait du monde dans les studios. Donc effectivement, c'était un vieux rêve. Enfin, c'était pas un vieux rêve.
Voilà.
On va dire, c'est pas non plus des jeunes, les pilotes.
Nous non plus, on n'est pas jeunes.
En fait, ce sont tes idoles, en fait.
Voilà.
Tu as invité tes deux pilotes que tu.
Voilà. Ça fait à peu près 20
ans. Tu vénères.
Ça fait 20 ans qu'on court en Norton et nos idoles. C'est Peter Williams, Dave Crawford. Donc Peter Williams était ingénieur et pilote officiel Norton. Donc c'est lui qui a développé, il est surtout connu pour avoir développé le cadre monocoque et roulé avec des roues à bâtons, des freins à disque, etc. quoi. Donc il était à son époque déjà très novateur.
Alors, à l'origine, il était donc ingénieur développement et aussi pilote.
Ouais, donc
il est deux, hein.
Oui, oui, oui. C'était donc le fils de Jack Williams. Jack Williams, pour les gens qui connaissent, c'est celui qui a créé le moteur de G50. Et donc, c'était son fils. Il est donc déjà né dans un milieu, on va dire, propice à la course moto. Hein, et donc, il a été pilote. Il a commencé sur une Arter Matchless, qu'il a personnellement équipé de freins à disque et de roues à bâtons. Qu'on appelait là-bas à l'époque des wagon wheels, des roues de brouette, parce que personne n'y croyait à ces roues à bâton. Et il a été au Tourist Trophy avec, on lui a dit qu'il ne ferait pas un tour, et il s'est permis de gagner la course avec son Arter Matchless.
C'est incroyable. Donc, ça fait quelques années que tu essayes de faire venir donc, ces deux pilotes-là à Vincennes.
Oui.
C'est un projet qui était.
Peter Williams.
Plusieurs années.
Peter Williams, malheureusement, sa carrière moto s'est arrêtée en 1974 après un gros crash à Houlton. Hein, son ensemble, selle réservoir, s'est décroché et John Cooper, qui était derrière, lui a roulé dessus ainsi qu'un autre pilote. Donc, grosso modo, il s'est retrouvé handicapé d'un bras et d'une jambe. Hein. Donc, le faire venir, c'était un pari un peu fou. Et 15 jours avant, quand il nous a dit qu'il venait, on n'y croyait pas et il est venu. Terrible.
Tout a été fait à l'arrache, le dynamisme des amis de la moto.
C'est vrai, hein, c'est super.
Voilà, allez, on fait la suite de notre sommaire. On ne pouvait pas faire autrement que d'inviter un groupe qui reprend des titres d'un célèbre groupe des années 70. Forcément, c'est les Beatles. Hein, et donc, on les appelle les Beatles, ils sont 6 sur scène. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas là dans les studios, ils sont 7 Gaston. Hein, on va passer quelques morceaux, 5 ils sont. C'est 5. Donc, on passera quelques morceaux de ce groupe, des reprises hein, du fameux groupe Beatles.
Quand même.
Voilà. Quoi ?
On en parlera un petit peu dans la rubrique.
Voilà, on en parlera tout à l'heure.
Accessible.
Très bien. Et pour terminer cette fois ce sommaire, Patricia, pour la rubrique Les femmes et la moto, nous donnera quelques dates de grands rendez-vous féminins pour 2012. Bonjour, Patricia.
Bonjour. Oui, une en particulier.
Voilà. Et on laisse la place à la musique avec Laurent Rodier.
Come together.
Magazine de la moto, c'est le dimanche de 11h à midi. Bon, tout le monde a sorti sa documentation. Patrick, alors là, des milliers de feuilles donc sur la table. Enfin non, j'exagère, hein, des milliers, il y en a 6. Bruno, c'est pareil. Donc on revient donc sur ces deux pilotes, Peter Williams et Dave Crawford, hein, qui étaient donc présents dimanche, le week-end dernier, donc à Vincennes, hein, sur le stand des Amis de la Moto. Bravo, chapeau les gars.
Hein. Avec une bon, ça, meilleure, hein.
C'est un investissement pour vous quand même, hein, parce que vous leur avez payé quand même le déplacement,
ouais.
L'hôtel là-bas.
C'est pas un investissement, c'est une banqueroute.
Vous avez creusé le budget, les gars. Là. Ah, mais la passion, c'est ça. Et
ouais,
pas,
c'est ça
quand
c'est
on
vrai,
a envie de quelque
vrai.
Chose, on compte pas le pognon.
Comme des gosses.
Hein. Et voilà. Non, mais chapeau, c'est bien, les gars.
Ouais, puis en plus, on a eu une moto d'usine à prêter, une jeune player Norton.
Ouais, ouais.
Il y en a très peu. Donc, comment dire, c'était, on veut dire, avec les pilotes, c'était un stand qui était quand même hors norme. Hein.
Là, Bruno, chapeau. Hein.
On a placé la barre très très haut.
Tu as fait réalisé ton rêve. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Bah, je sais pas, Ursula Andress ou Pamela Anderson, je sais pas.
On peut même dire qu'il y avait deux stands, puisque à côté de nous, il y avait le stand Triumph Triple,
oui.
Avec les motos du Bol de 71.
Oui.
Et donc, l'assemblage des deux stands faisait vraiment un très beau, très beau stand.
C'était vraiment un ensemble.
Ouais, Norton et Triumph des années 70 à 74.
Quand je suis arrivé, moi, je pensais que c'était carrément le stand.
Tout le stand.
Des amis de la moto. Ouais. J'ai dit, comme président, c'est dynamique.
Tu es un. Hein.
À côté, il y avait Paul Smart, Persitez,
Ron Chandler. Ce mec, ouais. il est.
Et puis les deux le vendredi tridents. Soir, le champagne a coulé à fond.
Oh, bah, je me doute. C'est pour ça, maintenant, je vais y aller le vendredi soir.
Le bol, pour les gens qui n'ont jamais vu un bol d'or de près, là, il y en avait
un. Ah oui, il y en avait un, oui.
Effectivement,
ouais,
j'ai
vu
le
bol 71.
Ouais,
le vrai.
Ouais. Tout tordu et gagné par une Triomphe.
Voilà. Hein. Voilà, incroyable.
Pas une Norton, Triumph.
Non, c'est ça qui est. C'est bizarre.
Bon, on revient à nos deux pilotes là, donc Peter Williams, hein, donc ingénieur au départ et puis aussi pilote. Et donc c'est l'usine Norton, c'est à lui que l'usine va donner le projet de construire une moto donc qui va tourner sur les championnats. Hein.
Et il y avait aussi donc l'aspect commercial pour Norton. Hein, donc il vendait à l'époque, c'était la Commando. Donc l'usine a donné comme impératif de garder par exemple le moteur bien sûr, mais tout le système isolastique comme argument commercial pour la vente des commandos.
Il fallait que ça reste en fait presque de série. Hein. Il fallait que
au moins de l'image que ça donne.
Voilà. Et donc c'est de là que le sponsor John Player.
Donc c'est quand même le
vendeur de cigarettes.
Le premier team qui a été sponsorisé par un marchand de cigarettes.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc cette moto était... Moi je fume pas, ça je suis du coup. Donc cette moto était noire
Non.
Alors c'était pas noir, c'était rouge.
Les premières étaient bleues, oui. Bleues et blanches. Ouais, ouais. Hein, donc quand il y avait Phil Reed qui courait avec. Voilà, ouais. Et après elles ont été blanches, bleues et rouges.
Hein, donc, blanches de fond et une bande bleue, une bande rouge.
Donc les couleurs des cigarettes John Player. Ouais aussi.
Oui, c'est pas le même bleu.
Ça, c'est la page philosophique de Gaston. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, alors, Bruno, on commence. Donc, on lui donne un peu d'argent à Peter.
Et il vient.
Ouais. Hein, et il commence à bosser à la planche à dessin.
Voilà.
Hein, il commence et nous fait
des résultats fantastiques. Hein, donc, il courait déjà en endurance avec une commando. Mais, par exemple, en 72, il se permet de gagner le Tourist Trophy en Formule 750. Donc avec une jeune player. Hein. Donc c'est quand même assez exceptionnel.
Ouais, et puis aussi...
Parce qu'à l'époque, il y avait quand même déjà tout l'armada japonaise.
Japonaise qui arrivait. Hein.
Et donc avec le vieux Twin Norton, il s'est permis d'être... Parce qu'il était déjà vieux à l'époque, le Twin. Hein.
Ouais.
Hein, c'est quand même, on va dire, c'est issu du Dominator de 1945-50. Hein.
Bon, apparemment, c'est une machine aussi qui va tourner à Daytona aussi. À Daytona,
c'est l'inauguration.
Pas sur la plage, hein, pas à Beach, à Daytona, sur le circuit. Ouais.
Par contre, ils ont eu pas mal de problèmes sur ces courses-là.
Donc, oui.
Avec les boîtes de vitesse. Oui, donc, les arbres primaires cassés.
C'était rémanent, ce problème d'arbres qui cassaient. Donc,
voilà. Donc, il y a un arbre qui est assez long sur la Norton et qui est un peu en porte-à-faux avec une gorge de circlips. Et forcément, ça cassait toujours à cet endroit-là.
Suivant les pointillés.
Voilà, et donc, Peter Williams a réussi à remédier. Bon, ils ont quand même perdu une saison avec ça. Il a remédié au problème en mettant un amortisseur de transmission dans la roue arrière. Hein, le problème, c'est que dès que la roue décollait...
Vous expliquez un peu, je comprends pas, un amortisseur de transmission dans la, ouais. Dans la roue arrière.
Dans la roue arrière, ouais,
d'accord.
Donc, pour absorber les chocs, c'est les chocs qui cassaient, l'arbre.
Ouais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas une moto sans caoutchouc dans les...
Oui, mais maintenant ça s'est repris pratiquement
dans la roue arrière et dans l'embrayage.
Ouais.
Donc effectivement, un visionnaire, alors ce Peter Williams.
Voilà.
Hein, il a monté des choses que finalement tout
le
monde a repris.
Et puis surtout le châssis monocoque. Hein, d'ailleurs, c'est le cadre qu'il préférait. Et donc l'usine lui a redemandé de remettre un cadre treillis après. Il n'était pas trop d'accord parce que pour lui, le meilleur cadre c'était le monocoque.
Et c'est confirmé aujourd'hui là avec entre autres la sortie de la 1199 chez Ducati qui reprend cette architecture là.
Donc on peut dire qu'un ingénieur du futur.
Oui, qui était déjà
vraiment des idées déjà.
Et donc ce week-end, on a pu parler avec lui et puis on s'aperçoit qu'il est toujours, on va dire, en avance. Et bon là, il travaille sur les motos électriques, hein, pour le Tourist Trophy, parce qu'il y a une catégorie le TT Zero.
Oui.
Et donc il a la première année sa moto qu'il
2009.
A dessinée a fini cinquième.
Et elle a fini.
Come on, here, woman. there. Can't stop a man from lying. You can't stop a little girl from time.
Voilà, c'est le magazine La Moto, c'est le dimanche de 11h à midi avec les bruits qui vont bien avec, forcément. Nous sommes en compagnie de Bruno Perlinski, Patrick Cassuto. Là, on revient donc sur la carrière de ces deux pilotes, Peter Williams et Dave Crawford. Bruno, je te posais la question durant le morceau de musique, ce qui parle un peu français.
Ouais, un petit peu.
Je me suis dit peut-être, j'avais un magnéto avec samedi dernier, et je me suis dit peut-être que je pourrais lui poser quelques questions, mais en anglais, je suis pas très bonbon. Ouais, nul alors.
Disons que comme il parle pas très très bien, je pense qu'il préfère ne pas parler.
Ouais, c'est
donc
ça.
Je pense qu'il comprenait des fois ce qu'on disait quoi, quand on parlait français. Oui.
Eh bien, donc alors effectivement, tiens, on parlait un petit peu de l'image de marque parce que avant Peter Williams, les motards, c'est
les combinaisons noires,
crasse, enfin pas crasse, on va pas dire ça, mais ouais, une image de marque qui est pas
c'est ça, l'équipé sauvage.
Le vieux van et tout ça. Le cigarettier il leur a demandé de mettre des combinaisons aux couleurs des motos, d'être toujours
bien
nickel, donc donner une image de marque qui
valorise.
Oui, c'est
l'image
ça.
Du motard et de la moto.
Tout à fait.
Voilà, parce que sinon, sur le petit article que j'ai imprimé, effectivement, dans les années 1970, Williams s'est présenté le visage intelligent de motard aux apparitions publiques, donnant des conférences ouvertes dans les universités. Ce qui est nouveau, en fait.
Oui, c'est vrai. Disons que ça a été plus médiatisé, notamment parce que le cigarettier voulait de la publicité. Donc,
Il fallait faire propre, il fallait faire correct,
ça.
Il fallait
donner une bonne image.
Voilà. Et si on parlait de Crawford, alors, qui n'est pas du tout pareil, c'est pas du tout ingénieur, lui.
Non, c'est un pilote. C'est un pilote qui est un excellent pilote, mais qui est surtout connu pour ses gamelles, parce que une petite dizaine d'années, il s'est pris quand même 189 gamelles.
C'est incroyable,
C'est incroyable. Ouais. Et alors, le pire, c'est qu'il s'est cassé qu'un os.
J'ai vu une dent.
Bone. Ouais. Bone, c'est un os.
une
petite fracture sur 189 gamelles.
Il faut dire aussi, Bruno, qu'à cette époque-là, c'est quand même incroyable. Il avait. Le cul bord des nouilles
parce qu'à l'époque, avec les combinaisons,
les combines et tout ça, il n'y avait pas de renfort,
rien du tout.
Un os et une dent.
Ouais. Il nous a montré, on avait donc une photo de lui là sur le stand et il nous a fait remarquer qu'avec ce même casque, il était tombé 25 fois.
Il n'avait jamais changé de casque.
Jamais. Alors c'était
poncé, repeint. Ah ouais. Avec de la bonne peinture qui ronge.
À l'époque, on pouvait rouler un peu comme on voulait au niveau des casques. Maintenant, c'est beaucoup plus.
Il
faut faire attention, quoi.
Ils avaient plus des bols, c'était des casques ouverts avec une visière.
C'était pas des bols, c'était un peu à la Jacques Finlay, là.
Ouais,
effectivement. Et donc, lui, Dave Crawford, c'est son truc, c'était de la scaffée, d'aller jouer avec les gueules. Comment ça se passait, mettait une pièce dans le jukebox.
Et puis allez hop,
Le tour et il fallait absolument avant que le morceau se termine. Si jamais tu arrivais trop tard, tu payais la tournée.
Et voilà.
Donc,
en faisant des trucs de ce genre-là, il s'est fait supprimer son permis trois fois, quoi. Et dans les années 70, se faire sucrer son permis, c'est pas comme
en vouloir.
C'est facile, mais à l'époque,
il fallait le faire.
Il fallait en vouloir.
je confirme. Il est dynamique, on l'a vu aussi dans son personnage. Ouais, c'est un déconneur de première.
Il n'y avait pas les radars, il n'y avait pas de.
Donc, il s'est dit que le mieux, ce serait quand même faire de la piste. Donc, il s'y est risqué. Et puis, chaque fois, c'était avec succès, quoi. Parce que il a gagné pas mal de courses. Bon, le problème qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Et il a eu de la chance que, qu'en 72, il y a Frank Peris, donc le gars de chez Norton, qui manageait enfin, l'écurie de course, qui l'a remarqué et qui lui a prêté une moto. Et il venait de casser sa trois pattes, là, et ils lui ont prêté une Norton. Et à Mallory, donc, il a gagné devant les pilotes d'usine, donc Grant et Reed, qui étaient sur les autres Norton. Hein, donc, il a commencé comme ça, et donc, ils l'ont gardé. Et il est resté pilote usine chez Norton.
Ah, c'était la bonne époque, hein, parce que ces gens-là tournaient avec Giacomo Agostini, Barry Sheen, Mike Grant, Percy Tray, Tony Jeffrey,
Paul Smart, ouais, ah, qu'on avait aussi d'ailleurs là-bas. Et toute cette
époque. Toute une époque, hein, c'est tous des pilotes qui ont marqué quand même un temps de la moto, un moment.
Et à Motosalon, bah, toute cette équipe était là.
C'est dingue.
Et c'était quand même
invité
fantastique.
Par...
Bah, pas que moi,
par
mais bon,
Bruno
en partie par nous, quoi.
Oh,
et voir leur sourire.
Regarde, ça fait bien, ça le fait.
Et voir leur sourire quand ils se sont rencontrés, c'était que du bonheur.
Bravo. Allez, un petit coup de musique. Allez, à tout à l'heure.
Look around my shoes now. Nobody.
écoute ça.
C'est un mono.
Et écoute ça, mono. C'est un mono. Mono. Et hey, qui c'est que t'entends ça?
Ah
franchement,
bah
c'est pas ailleurs.
Ouais,
écoute
vrai.
Ça.
En plus, c'est pas un 4 hey, pattes.
C'est pas génial.
C'est un Norton avec une bougie dans le sac.
Bruno, de la bonne zik. Du ouais. Bon bruit de moteur.
Une bonne ambiance.
C'est bonne ambiance, terrible. C'est sympathique. Et garde, ouais. Même un chèque de 100 euros que
oh,
je te donne.
Ça, c'est super.
Tu vois, ça, c'est terrible. Pour. Voilà.
Ouais. Bravo, tu as gagné.
Et c'est vrai qu'il faut en parler parce que bon, c'est une opération qui nous a coûté excessivement cher et que on a eu de la chance parce qu'on a eu quelques sponsors et pas des moindres. Donc, déjà, Kikin Kouté Topal, fantastique. Le Caïman, le Club Triton, le Club Norton France, les Vieux Clous, Yellow Peril. HPR, enfin voilà, c'est tous
voilà,
ces gens
tous ces gens-là, tous ces clubs, tous ces assos ont donné leur petite obole. Hein.
Voilà, c'est ça.
Nos voisins du club Triomphe Trident aussi.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
Vachement participé. Donc
pour ceux qui nous écoutent, là, les Caïmans, les confréries de
les
Vieux Clous, tout ça, bah, nous
merci.
Aussi, on a participé. Mais l'avantage, c'est que nous, on est à la radio, donc on,
eh ben
on
voilà,
le fait
on
en
peut
direct.
Dire, on peut le dire. On avait fait un beau panneau avec tous nos sponsors.
Ah oui, c'est vrai, il y avait un.
Et comme notre stand a été bien visité, j'espère qu'il aura été pris en photo.
Voilà. Voilà. Donc on revient donc sur cette carrière de Peter Williams. Donc au début en 1967 en fait il va être il va pas il remporte le sa meilleure saison c'est en 67 sur une vache laisse.
Voilà.
Il remporte pas le championnat.
Hein.
Et tu me dis qu'en fait pendant deux mois il a été devant ouais. Giacomo Agostini qui était sur le la Honda.
Agostini sur la MV.
La MV.
Ouais, ouais.
Hein.
Et Elwood sur la Honda.
Et Elwood sur la Honda.
Voilà. Et donc eux avaient des multicylindres très puissants. Et bah, voilà. notre Peter Williams, il avait
il termine quatrième en fait du championnat du monde.
Ah ouais.
Hein, sur
et donc lui, il est avec un vieux gros mono que son papa a dessiné 10 ans avant, et il se permet d'aller titiller, je veux dire, les premières places. Quoi.
Patrick, tu devais nous dire quelque chose. Au sujet de Peter Williams
bah rien en particulier. que son embauche chez Norton datait de l'année suivante, c'est tout.
Donc, en fait, ça va durer jusqu'à quand, donc, Norton
dans le championnat en 76. Bon,
76.
Après le moteur Norton, qui était vraiment à bout de souffle, ils ont essayé de développer un moteur Cosworth. Donc le moteur a été fabriqué, ça a pris un petit peu de retard avec les grèves chez Triomphe parce que Triomphe participait au développement et comme il n'y avait pas assez de moyens pour le développer, je veux dire ça s'est arrêté en 76-77 quoi.
Alors peut-être que tu as parlé aussi un peu des nouvelles générations là, des Norton que l'on voit arriver là, il t'a reparlé de ça.
On lui en a parlé bien sûr.
Et c'est quoi c'est le renouveau du
de... C'est vrai que bon on en a parlé à Peter Williams.
Qu'est-ce qu'il en pense?
Alors, comme il est précurseur.
Ah, c'est Norton, hein, je suis désolé.
Ouais, tout à fait, c'est
Norton. Tu vois pas le nom, toi. C'est vraiment emblématique ce nom.
Pour
Norton,
lui, Norton, c'est.
Pire que Triomphe, je trouve.
Comment dire, lui, comme il est toujours un peu de avant-gardiste, Norton, là, ce qu'ils font, c'est une vieille moto pour lui et ça l'intéresse
c'est
pas.
C'est une vieille moto.
Ouais. C'est une vieille moto, ouais.
Il a été sollicité pour participer au lancement, associer son nom au nouveau modèle. Et bon, pour lui, le nouveau modèle étant ancien, il préférait être sur des, sur des marchés de motos électriques ou des monocoques plus évolués, des choses plus vivantes et plus modernes. Quoi.
Voilà, donc on va terminer cette petite histoire là. Hein, donc,
en tout cas,
qui s'est passé dimanche dernier là,
c'était dimanche passé.
On
était sur une autre planète.
Ouais. Hein, ceux qui ne sont pas venus ont raté l'événement.
Tant pis.
Mais la prochaine fois, on viendra en histoire. Hein.
Voilà.
Parce que tu vois, je pense que c'est vachement vieux vendredi soir.
T'as raison.
Donc voilà, l'année prochaine, une autre idée, Bruno.
Peut-être
d'autres pilotes,
c'est pas mal parce qu'il était pilote, hein, pilote de sidecar. Hein, donc déjà pour commencer avec un G50 et après avec un BM Rennsport.
J'ai vu aussi que Crawford s'était essayé un petit peu aussi au sidecar. Il était passager.
Là, il m'envoyait des photos. Il était justement passager avec Colin Sillé au dernier.
Ouais,
mais
j'ai vu ça sur.
Je veux dire cette année. Hein.
Ouais. Cette année.
Oui, cette année, il roulait avec Colin Sillé en démonstration.
En démo. Oui, d'accord, en démo.
Un truc comme
mais
ça.
Moi, je l'ai vu en course en fait, apparemment sur un site. Hein.
Ouais, en 65 apparemment, il a essayé un petit peu le side. Au moment où il a perdu son permis, un petit peu après là, il s'est essayé au side et puis il a dit la même chose qu'il disait à Jean-Pierre Capel. les gens qui font du side, c'est des maboules. Et donc, il est revenu très vite au moto solo.
Alors, il faut quand même dire que Bruno, c'est des gens qui ont dans les 60...
près de 70 ans maintenant. Hein.
Presque, hein, 70 ans. Hein,
ouais. Parce qu'en 67, on estime qu'il avait une bonne vingtaine.
Ouais.
Ouais, il doit flirter les 70
ans. J'ai calculé 67 ans pour Peter Williams.
Et venir à un motosalon, je veux dire, ils nous ont quand même fait un sacré cadeau.
C'était la cerise sur le gâteau. Voilà, vraiment génial. Eh bien, Bruno, on va te laisser parce qu'on sait que tu travailles.
Voilà.
Hein, tu vas au complexe.
Voilà.
Au complexe moto. Voilà. Bon courage pour la journée.
Merci.
Et puis j'espère qu'un jour tu viendras nous raconter l'histoire des cilés, peut-être.
Pas de problème.
Cilés, hein,
voilà.
Je pense que ce serait vachement intéressant.
Avec plaisir.
Allez, un petit morceau de musique et on se retrouve après. Le magazine de la moto, c'est le dimanche de 11h à midi. Et maintenant, on va passer après Bruno Perlinski et Patrick Cassuto. On va passer au magazine de la musique avec Fred et Jean qui font partie des Bottles. Bonjour, messieurs.
Bonjour, messieurs.
Comment faire on parlait, vous avez entendu la première demi-heure consacrée à des pilotes. Cette demi-heure consacrée à des pilotes des années 70. Donc, forcément, ce que vous jouez, vous faites des reprises donc, des Beatles.
Des années 70.
Des années 70. Alors, ce qu'on en vient d'écouter.
Et 60.
C'est génial, vous mettez le feu, parce que nous, on vous a déjà écouté, vu, joué, écouté. Vous êtes très dynamique, tonique, sauf que vous êtes 7.
On est 7. Voilà. C'est la grosse différence avec l'original. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres des différences. Ouais. Nous, on a l'habitude de dire qu'on fait un peu les Beatles avec du son Rolling Stones, en gros.
Donc, dites-nous un peu quand ça a commencé, comment vous êtes rencontrés.
Les Bottles, c'est en fait un mix de plusieurs groupes de copains qui font de la musique depuis pas mal d'années. Il y a eu de la chanson française, il y a eu du rock, il y a eu du blues, il y a eu du métal. Et comme on se connaissait tous, on cherchait un projet rassembleur et on s'est dit tiens, si on s'attaquait un peu aux Beatles. On a acheté les partoches, on a acheté un énorme bouquin qui s'appelle le Complete Store, on s'est plongé dedans et puis on s'est aperçu que c'était très intéressant musicalement. On n'a pas tout de suite, on a abandonné l'idée de trouver le son Beatles. On a lâché l'affaire, on a gardé notre son à nous, celui qu'on savait faire. Et puis voilà, ça fait les Beatles, ça fait 6-7 ans que ça tourne.
Et depuis 2003, hein.
Ouais, 2003. Ouais. Et on se fait plaisir surtout.
Alors vous jouez que des Beatles.
Ouais, enfin chacun dans
quelquefois après.
Dans les membres du groupe, il y en a d'autres qui ont d'autres groupes et qui font d'autres choses. Ouais. Mais sur ce projet-là, on fait que les Beatles. Ouais.
Donc, est-ce que vous avez un souvenir? Vous avez fait des concerts où vraiment c'était ça pétait, c'était vraiment vous êtes dit. Là, franchement, je vis quelque chose.
Il y a un concert chez Gaston qui était pas mal du tout. Il y a même un article dans Moto Magazine où on voit que Fred est derrière une moto.
Une belle moto.
Comme je ne m'y connais pas d'état, je ne pourrais pas te dire le modèle.
Bon, donc c'était donc cette fameuse moule frite organisée à l'occasion de la braderie. Oui, effectivement, je me souviens.
Ouais, c'était vraiment un bon souvenir. On a fini tard, très tard et. Et dans un état tout à fait agréable.
Sous un avis de tempête en plus.
Sous avis de tempête, exactement. C'était marrant, ça s'est vidé. Sauf
laisser la place chez Gaston. On va laisser la parole à Gaston c'est important. Il veut dire quelque chose.
Oui, je veux dire c'est rigolo justement de faire la synthèse entre la moto et le rock. Et pourquoi? Bon, au fond, c'est vrai. Moi, j'avais noté comme ça en vitesse quel rapport entre la moto et le rock, autre que le 4 temps et Born to be Ride. Sinon qu'on roule tout sur un tempo d'enfer, c'est bien,
c'est bien écrit quand même.
Je suis vachement content de moi. Et c'est marrant, en fait, c'est que le but et ce qu'on voudrait essayer de faire un petit peu à Kikaku, et peut-être aussi par Motomag, c'est pour toutes les associations, motoclubs et autres, de pouvoir au fond se payer un groupe. Ça a l'air inaccessible le rock, enfin tout au moins pécuniairement on se dit ouais c'est cher, est-ce que je vais pouvoir me payer un groupe, alors on branche les ordi, tout ça, ça reste impersonnel. Je pense que, d'ailleurs on en parlera vite fait, je pense que ce qui est intéressant là-dedans c'est de se dire au fond on peut se payer des bons groupes, et là la mayonnaise elle prend, et là le rapport humain, la soirée, donc on parlait de la braderie et d'autres, c'est plus pareil. Donc les questions que je voudrais poser en vitesse comme ça aux Bottles par rapport c'est tout ce qui est relationnel avec les organisateurs, tous les problèmes d'accueil des groupes et tout, parce que c'est pas toujours évident. On tombe dans un milieu, motard par exemple, toi tu viens de faire l'expérience, donc première bonne expérience, après je te connais.
Je te confirme, bonne expérience. Et si tu veux, nous, d'abord au niveau du contact, tu as vu comment ça s'est passé, on essaye de se voir avant, on discute des conditions, etc. etc. Et en général, on s'arrange. Nous, on a pour habitude, on n'est pas des fous furieux, des pros, etc. etc. On essaye de faire du mieux qu'on peut, mais on a pour habitude, le but du jeu pour nous, c'est de se faire plaisir aux gens. Donc on se voit en général avant, on discute, on se met d'accord, et en général, quand les gens sont cool en face, ça se passe super bien. L'accueil est toujours bon, et on peut toujours se faire plaisir. Nous, c'est le but du jeu, se faire plaisir. Donc, on s'emmerde pas trop avec ce genre de trucs.
Voilà. Moi, je pense qu'il y a un côté génial chez les Bottles, c'est que, outre le rapport avec l'argent, qui, au fond, on n'a pas... C'est pas excessif.
C'est pas cher.
Je répète, c'est
pour ce que c'est pas 2000 euros. Vous pouvez vous
payer des Bottles.
C'est pas 2000 euros, je crois.
Vous pouvez vous payer des Bottles et pour un prix très correct. Non, ce qui est génial, c'est la fusion après qui existe entre les gens qui organisent, les groupes et les invités. Et ça, quand on en arrive là, la soirée, elle est gagnée.
J'espère que ça va aussi bien se passer que quand on s'est vu à la braderie.
Mon avis, ça va bien se passer. Écoute, Fred et Jean, je propose de vous faire écouter aux auditeurs. Comme ça,
avec plaisir.
Sera l'exemple.
Avec plaisir.
Allez, les Bottles, en direct. Voilà, après avoir parlé de deux pilotes d'exception, Peter Williams et Dave Crawford, nous parlons d'un groupe génial, les Beatles, avec Fred et Jean. Bon, quelques petites dates éventuellement prochainement, on pourra vous retrouver.
Ouais, bah déjà, on va avoir le plaisir de vous retrouver un de ces quatre. Ça, ça va nous faire plaisir. Et puis là, on est sur une période de travail. On est en train de retravailler des nouveaux morceaux. Donc, on s'est fait un petit break pendant l'hiver. Et on reprend au mois d'avril dans une salle qu'on aime bien. C'est la salle dans laquelle a été enregistré le morceau que vous venez d'entendre là.
Ça sera le vendredi 13 avril. J'espère que ça nous portera bonheur.
Ouais. Oh bah.
Vendredi 13 avril 2012.
Ça, ça dépend les gens. Tu sais, le 13, quelquefois, il y a que ça apporte pas mal de chance. Et puis d'autres aussi. Ouais.
Et ce sera au Zicodrome à Compiègne.
Voilà, c'est là où était enregistré donc Come Together. Ça s'est enregistré le 1er avril 2011.
Donc là, si vous faites vous retravaillez sur d'autres morceaux. Hein. Donc vous ne jouez pas le répertoire total des Beatles.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a 500 morceaux hein, des Beatles. Et donc sur un concert, ça fait un peu beaucoup. Donc nous, on avait pris le parti quand on s'est mis sur le projet de choisir de laisser de côté un peu tous les grands standards, comment dire, un peu romantiques, etc.
En gros, on joue pas Yesterday.
On est plutôt du rock and roll. rock'n'roll.
Voilà,
ce qui bouge un peu.
Tout ce qui bouge un petit peu, ouais. Qui est un peu plus proche de notre culture de base. Et donc du coup, voilà, ça évolue avec le temps, etc. Il y a une trentaine de morceaux par concert, avec des costumes, etc., etc. Et
faut préciser que vous changez de costume durant le spectacle.
On vient pas en moto, mais on vient en costume.
Ouais. Bah, c'est ça. Bah oui, non, mais
c'est vrai qu'on y pense d'ailleurs de rentrer en moto sur scène, ça pourrait le faire.
Ah, ce serait bien sur une Harley Davidson, par exemple.
Y penser.
Cette année, on aurait pu prévoir le parapluie d'ailleurs.
Et on aurait pu prévoir le parapluie, effectivement. Et donc, ça dure combien de temps un concert bon. C'est suivant un peu l'humeur, l'ambiance.
C'est suivant l'ambiance en général.
Deux heures, une heure, trois heures.
En gros, nous, on a un format de 2 fois 1 heure. Ouais. Avec changement de costume. Et puis après, voilà, en fonction de ce que demandent les gens, de ce que veulent les gens, etc., que ça, on s'adapte en morceaux.
Et rappel possible.
Et rappel en plus. Et même plusieurs fois, je le sais, je confirme, hein, vous revenez souvent. Hein. Il suffit pas grand chose pour que vous remontiez sur scène.
Bah, quand il y a de la farandole.
Là, je coupe. Il suffit quand même d'assurer en duvel. Faut pas dire
ça c'est on n'a pas le droit de faire de publicité.
On ne peut pas vider les bottles. On est obligé de les maintenir en état fonctionnel.
Publicité mensongère.
Voilà.
En plus.
Ouais. Voilà. Alors, donc
gens que voudraient dire qu'on boit beaucoup pendant
non,
qu'on joue,
c'est non, ça non, absolument.
J'ai pas dit ça.
Absolument.
C'est pas possible. On peut pas dire ça à la radio publique.
C'est pas public. C'est pas public. Donc c'est... voilà, on peut vous retrouver sur des MySpace, des sites, téléphones, partout. Hein,
MySpace, on a un MySpace, c'est myspace.com/lesbottles, tout collé. Donc les bottles, c'est LESBOTLES.
Il n'y a pas de numéro de téléphone
on va donner ton 06, Fred.
Allez, je vais donner mon 06 pour tout.
Je le connais par cœur. 06 87 01 21 56. Ça, c'est le numéro de Fred. Je répète, 06 87 01 21 56. Et pour ceux qui sont plutôt du côté de Douai et Cambrai, on va donner celui d'Olivier, c'est l'autre guitariste. Il sera ravi aussi de recevoir des appels. Appelez les filles. 06 08 16 11 12. 06 08 16 11 12.
C'est sa femme qui va être contente.
Nous, on vous dit que n'hésitez pas, hein, si vous voulez organiser une soirée avec un groupe qui bouge et qui fait bouger, hein, c'est ça aussi important, hein, parce que faire bouger les gens, à notre époque, c'est pas facile, hein, surtout quand tu fais un truc avec un repas ou comme ça.
Avec le repas, c'est plus dur.
Après, les mecs, ils sont complètement avachis parce qu'ils ont bien mangé et tout, il faut les refaire
lever, la digestion,
bouger. Hein,
La digestion,
voilà. Et je confirme que vous y arrivez.
Ouais, bah écoute, nous, on prend du plaisir que quand les gens en face sont là, quoi.
Oui.
Ça, c'est notre plaisir à nous quand on ressort d'un concert et puis que les gens ont passé
les deux heures en train de s'endormir.
On s'est dit, bon voilà, soit on n'est pas au bon endroit, soit on a vraiment été mauvais.
Ouais. C'est pas bon. Mais je confirme, hein. Gaston.
C'est pour ça qu'on a pris la décision de les faire venir ici à Campus dans une émission moto, parce que je pense qu'un motard, c'est pas s'emmerder, il faut que ça bouge. Et là, c'est le groupe idéal pour vous animer vos soirées, vos animations, vos anniversaires. Retenez le numéro et voilà. Nous, on a testé pour vous, c'était génial.
Et on se met un petit dernier bottles.
Allez, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Ah non, c'est pas le dernier. Non, Laurent, il fait signe que non. Il n'a pas voulu mettre un dernier. Tu sais, c'est Laurent. Hein.
En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.
Ouais.
Salut!
Bon, ben, si avec ça vous n'êtes pas réveillé, moi je comprends plus rien.
Et ne vous rendormez pas en m'écoutant, surtout, surtout.
Bon voilà, on termine ce sommaire, cette émission en fait. Hein. C'était annoncé dans ce sommaire de cette émission. Patricia, hein, pour quelques dates de grands rendez-vous donc au féminin pour 2012.
Bah oui, parce que comme là, malheureusement, les émissions se terminent pour les...
C'est votre dernière, en fait, hein, je vous l'annonce, voilà, pour cette année. Hein.
L'info féminine pour cette année. Eh bien, on va donc parler du programme à venir et surtout du fait que 2012 va être encore l'année des filles. Ah en bon moto. Dans la région, il y a un super rendez-vous et il faut qu'on s'y prépare, il faut qu'on organise, que ça se structure. L'an dernier, Anne Sidonier, qui était une des organisatrices de Tout en moto sur Paris, avait participé à l'émission pour présenter donc la deuxième édition de Tout en moto. Qui mobilisait les filles sur Paris et sur Marseille. Et pour 2012, Lille va faire va leur tenir
donc
compagnie.
Nous les mecs, on va avoir droit à voir toutes ces femmes passer, défiler en moto, si je comprends bien.
Bah surtout, tous les mecs, je pense, vont pouvoir s'intéresser au sens d'une manifestation.
Une grande manifestation
qui aura lieu donc le 11
féminine.
Mars. Ouais. Quatre rendez-vous, quatre villes importantes, Paris, Marseille, Lille et Nantes.
Donc mec interdit, hein, hein, c'est que des femmes.
Disons que pour le message, ce sont les filles. Et la fête ce jour-là, effectivement, sont les filles qui vont l'animer. Et on va pouvoir préciser tout ça, mais Kikinkoo, comme d'autres partenaires, seront présents. Kikinkoo, donc, avec l'émission, bien sûr, mais aussi le calendrier, hein, que vous pourrez retrouver justement tout en moto dans les pages du calendrier 2012. Radio Campus également, qui sera partenaire à plein, je dirais, dépassant le cadre de l'émission de Kikinkoo, pour un vrai partenariat. Et on va vous détailler tout ça au fur et à mesure.
Voilà, je vais poser quelques petites dernières questions à Patrick, hein, pour les classiques, les grands rendez-vous classiques pour l'année prochaine. Mettez, c'est terminé. T'es pas au courant.
Oui, pareil. Moi, je suis un peu en retrait là. Donc après, la prochaine saison, en général, ça commence
pour l'année prochaine.
Au mois de mars, avec un meeting à Zolder, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis ça s'enquille derrière Boulder Classique et puis toutes les manifestations régionales ou belges. Ensuite, pour l'été.
De toute façon, on retrouvera ça dans le calendrier des motoclubs d'ici le 15 janvier. Patricia, une toute dernière information.
Oui, on aura aussi l'occasion de parler de toutes les journées sur circuit qui sont organisées, et en particulier par celle de la Mutuelle des Motards. Mais vu le succès que ces journées peuvent avoir, si on en croit les échos de celle du 11 octobre dernier qui s'est déroulée à Carole, eh bien, il faut vite se renseigner, regarder les dates et puis essayer de s'inscrire, parce que je crois que les places seront précieuses.
Bon, Patricia, on se retrouve au mois de janvier, fin janvier, hein, pour le quatrième dimanche.
Probablement.
Je vous souhaite un bon Noël. Probablement un bon Noël. Ça ne sera plus. Hein.
Oui, bon
Noël. Bon Noël et une bonne année.
Bonne fin d'année à tous.
Voilà, merci, au revoir, passez un beau dimanche.